Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Chapitre 3 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier.
Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public.
Chapitre 3. Pénétrons dans une taverne située à l'extrémité ouest de la rue de la Commune. C'est de là qu'est parti le chant dont nous venons de reproduire quelques vers. La barre est inoccupée pour le moment, mais dans une petite salle attenante, nous trouverons trois individus en train de boire, fumer, causer, chanter. Ces trois individus sont ivres. On s'en aperçoit à leur contenance, à leurs cris, à leur conversation, et surtout à deux bouteilles de whisky, vides à côté d'eux. L'un répond au nom de Mike ou Michael, indifféremment. Nous le connaissons. C'est un homme de haute taille, sec comme un échalas. Il a le teint lit de vin, les yeux vifs, clignotant sous des sourcils roux, épais. Le nez crochu comme le bec d'un oiseau de proie. La bouche démesurément fendue. Les bras longs, les doigts osseux, cuirassé d'un enduit de poussière et de crasse, lequel, pour être enlevé, exigerait l'excoriation de l'épiderme, et, enfin, il porte l'accoutrement le plus multipièce, le plus misérable qu'il soit possible d'imaginer. Ses compagnons ne lui cèdent pas un point, en laideur et en malpropreté physique. Hâtons-nous cependant d'ajouter, pour l'acquis de notre conscience, que Mike est leur maître en laideur et en malpropreté morale. Mais, comme disait l'Irlandais, chacun a ses défauts et ses qualités. N'est pas honnête homme qui veut bien, et, mourir pour mourir, autant vaut se pâmer au bout d'une corde que de râler sa dernière heure sur un lit de plumes. Décidément, Mike était un philosophe de l'école des optimistes, et certes, il ne manquait qu'un peu d'érudition pour composer son épitaphe comme Feu Villon ou pour disserter sur l'excellence de ce monde comme le brave docteur Pangloss. Fin du chapitre 3 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 4 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. Oui, barkeeper. Note, garçon. Fin de la note. « Une bouteille !» cria tout à coup l'un des trois hommes. « Bast, il est sourd !» dit un autre. « Va chercher la bouteille, nous nous servirons nous-mêmes. »«
J'approuve !» appuya Mike. « Mais mille sabords, changeons de système. Je veux du punch, faisons du punch. C'est moi qui paie, allons. »«
Chante-nous quelque chose !» reprit le premier interlocuteur, en déposant sur la table les objets nécessaires pour préparer le punch. « Oui, chante-nous le chant du corsaire !» dit le second. Et l'Irlandais d'un son puissant, quoique éraillé, entonna l'hymne dont nous avons cité des fragments plus haut. Ses convives ne l'interrompaient que pour pousser des hurrahs furibonds ou porter le verre à leurs lèvres.
« C'est superbe ! Magnifique ! À la santé de Mike ! À la vôtre !
Où as-tu appris cela, chum ?» Note, camarade. Fin de la note.
Ça ? Ah, vous voulez savoir où j'ai appris ça, mes pigeons ?
Dis-le-nous.
1 000 000 000 d'écubiers, où j'ai appris ça ? Hé, où apprend-on de pareilles chansons ? En mer et pas sur le plancher des vaches. Hé, hé, c'est que j'ai été matelot, moi. Pas marinier d'eau douce comme vous autres, gens de cage.
Note, train de bois flotté. Fin de la note.
Bon, tout au plus, à manœuvrer des perches ou des guenilles de toile, grandes comme l'aile d'un goéland.
Fais pas tant tes embarras.
Mes embarras? Qui est-ce qui prétend que je fais mes embarras? Est-ce que je n'ai pas servi à bord du corbeau, moi?
Le corbeau?
Oui, le corbeau.
Une corvette de plus de 20 canons, rien que ça, et des mâts, fallait voir. Et des voiles larges comme la place d'armes, ni plus ni moins.
Parlez-moi d'un bijou de navire comme celui-là. Ça vous filait ses 16 000 à l'heure,
et quand ça se mettait en colère? Eh bien?
Ah, ah, quand le corbeau se mettait en colère, mes agneaux,
en se pinçant le nez d'un air narquois,
quand le corbeau se mettait en colère, ah, dame, malheur à qui se trouvait à portée de sa griffe. Le capitaine Larençon n'y allait pas de main morte.
Le capitaine Larençon?
Oui, le commandant du corbeau, que j'ai, par parenthèse, dépêché vers le diable. Fier homme autrefois, mais...
Mais?
Il m'avait joué des tours, et, ma foi, j'ai dû éviter une peine au bourreau. Buvons!
Fin du chapitre 4 de la 6e partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011.
Chapitre 5 de la 6e partie. Une histoire sanglante. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5.
Donc, dit l'Irlandais, à qui l'ivresse déliait la langue, donc, le capitaine Larençon était un dur à cuire dans son temps. Un jour, il me condamna à 1 mois de fer, pour une bagatelle. Et, ma foi, je n'avais jamais bien digéré ce boulet-là. Voilà que nous venions de capturer un brick, chargé de Jamaïque. Je me trouve de quart. Il faisait noir, comme dans la gueule d'un four, et froid. C'était sur les côtes de Saint-Jean, c'est tout dire. Voilà que je me dis, « Mike, tu dois avoir soif. » Et voilà des barriques qui ne demanderaient pas mieux que de t'aider à passer ton quart. Mais le capitaine qui a défendu de se rafraîchir avant demain, le capitaine, bast, il n'y verra que du feu, le capitaine. Sur ce, je m'approche galamment d'une barrique, fais sauter doucement la bonde, coupe un morceau de la jambe de mon pantalon et plonge le dit morceau dans le liquide embaumé. Vous comprenez, je m'en suis repassé à gogo. Par malheur, j'oubliais de refermer la barrique pour faire un somme à côté. Le lendemain, nom d'une écoutille, je m'éveille dans la cale en tête à tête avec une populeuse colonie de rats. « Drôle, » dit un des buveurs. « Oui, très drôle, » ajouta l'autre. « Donc, » poursuivit Mike, « donc je me suis mis en tête de faire des miennes, ou plutôt d'en faire à notre capitaine Larençon. J'avais sa cale sur la conscience. Je fis ma punition. » C'était dur, mais j'avais mangé de la racine de patience. Ça m'est souvent arrivé, de manger de ce végétal. 1000 écoutilles, on n'est pas matelot pour sucer des pruneaux du soir au matin, ou réciproquement, vice-versa, comme disait le capitaine, à votre aise. Or, voilà-t-il pas que notre commandant m'avait pris en affection. Oh, mais une affection comme on en voit peu, une affection... Enfin, il ne m'appelait plus que son très cher Mike, le vieux caïman. Histoire de m'amorcer, vous comprenez? Donc, nous étions au mieux, mon bon Mike par-ci, mon excellent Mike par-là, et moi qui vous lui en gardais une... soignée. J'ai toujours eu l'estomac rebelle à certains mets. Mais, ma foi, je m'étais laissé séduire. Oui, tel que vous me voyez, j'étais comme le chien couchant du capitaine Larençon. Brigand de capitaine, va. Il l'a payé cher. Hé hé. Verse-moi un verre du punch, John.
L'individu apostrophé s'empressa d'obéir.
« Allons, à la santé de la Camarde !»
dit l'Irlandais, en élevant son verre, plein jusqu'au bord. « La Camarde, qu'est-ce que cela ?»«
La Camarde, oh, rien. Une vieille histoire. Une femme, la Camarde, il y a une 40aine d'années. On le disait du moins de mon temps. »«
Qu'est-elle devenue ?» demanda John, en suant sang et eau pour allumer sa pipe qu'il avait oublié de bourrer. « La Camarde !» fit le dernier membre du trio, fermant à demi les yeux et se renversant sur le dossier de sa chaise, comme un homme qui veut retrouver la mémoire en isolant son attention des objets extérieurs.
« Oui, la Camarde. Hé, hey, tu l'as connu, le cageux ?» reprit Mike. « Combien y a-t-il de temps que tu habites le pays ?»«
Le pays ?» répéta le personnage interpellé sous le nom de le cageux. « Le pays ?»
bien 20 ans pour le moins.
« 20 ans, 20 ans !»
murmura Michael, dont l'ivresse commençait à embarrasser l'esprit.
« 20 ans, bateau 20 ans, ça c'est vu, 20 ans. Dis-tu pas qu'il y a 20 ans que tu broutes les prairies coloniales, hein, le cageux ?»«
20 ans, répéta celui-ci flegmatiquement. « Oui, à présent, j'en suis bien sûr. Ça me paraît clair comme de l'eau de roche. Il y a 20 ans que je suis venu au Canada, sur le Saint-Laurent. C'était en 1800... »
« 10 et 10 font 20, ton raisonnement me semble juste, » répondit l'Irlandais.
« Très juste, » appuya le cageux. « Oui, c'est bien ça, 10 et 10 font 20. Je suis venu au Canada en 1800... » « Mais qu'a donc John avec son brûle-gueule ?»«
Mon brûle-gueule, il ne veut pas fumer, le brigand. Croiriez-vous ça ?»«
Eh, par l'encre de miséricorde, emplis-le de tabac et ne t'échine pas à aspirer de l'air échauffé. »«
Mais... »
Mais, imbécile, ne t'aperçois-tu pas que le fourneau de ta pipe est, en ce moment, aussi vide que ta poche ?
Tiens, c'est ma foi vrai, dit John, après s'être assuré du fait.
Or ça, continua Mike, dont le jugement était complètement englouti sous les nombreuses libations alcooliques qu'il avait offertes à son gosier.
Or ça, je m'en vais, chums, vous conter une histoire.
Une histoire, répliqua le cageux.
Bah, ça endort, les histoires.
Moi, j'aimerais mieux des chansons, la Marseillaise, par exemple. « Tu dis ?» s'écria John, qui était parvenu à allumer sa pipe.
« De par tous les sabords du corbeau, il parle de la Marseillaise !» répartit Michael. « La Marseillaise ! Ah oui, une fière chanson ! Faut entendre le français la chanter ! Là-bas, en mer, c'était en la chantant, la Marseillaise, qu'il vous courait à l'abordage. La Marseillaise, ah ! Mais je la sais ! Je me la rappelle, moi. Attendez un peu. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Comprends pas, dit John.
Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé.
Quand je te dis que je comprends pas.
Pas moins certain que c'est joliment joli, dit le cageux.
Celui qui vous a fabriqué cet air-là n'était pas manchot.
Ça ne vaut pas mon histoire, reprit Mike. Voulez-vous que je vous la conte, mon histoire? Ça nous fera passer le temps.
Marche.
Auparavant, rinçons-nous l'entrepont, dit Mike en se versant une rasade.
L'entrepont, dit John avec surprise. L'entrepont, qu'est-ce que c'est que ça, l'entrepont?
Imbécile, proféra le cageux.
By God! S'écria John, saisissant une bouteille par le goulot, d'un air courroucé.
« Vlan ! » dit le Canadien, qui saisit une autre bouteille et la lança à la face de son compagnon.
« Attrape ! » riposta aussitôt l'autre, avec un mouvement semblable. Les deux projectiles lâchés simultanément dans des directions diamétralement opposées se rencontrèrent au milieu de leur parcours et, brisés par la violence du choc, s'éparpillèrent en morceaux sur la table.
« C'est bête, ça ! »
dit l'Irlandais, remarquant que quelques éclats de verre étaient tombés dans le vase qui contenait le punch au rhum.
« Bête ? Qu'est-ce qui dit que c'est bête ? » hurla John. « Moi, » répondit l'Irlandais, sans perdre son sang-froid. « Oui, je dis que c'est bête. Le cageux et toi, vous n'avez pas le sens commun. Voilà, pour le moins, une bouteille de punch perdue. Si c'est pas... »«
Au diable ! » interrompit John, emporté par une sorte de délire et empoignant en même temps une autre bouteille.
« Eh, eh, ça va se gâter !» dit imperturbablement l'Irlandais.
« S'il a le malheur de bouger !» commença le cageux.
« Il s'en gardera bien !» reprit Mike.
Et il sortit de sa poche un long couteau poignard dont il s'amusa à brunir la lame sur le revers de sa main.
« Lâche !» râla John, d'une voix étranglée par la rage. « Possible, possible !» dit l'Irlandais, examinant la pointe affilée de son arme au rayon douteux de la chandelle qui éclairait cette scène.
« Lâche ! Oui, vous êtes des lâches !» réitéra John. « 2 contre 1, lâche !»«
Laisse, Mike, » dit le cageux. « Je me charge de lui refroidir le sang à moi tout seul. Ah, il s'imagine !»
En disant ces mots, notre homme s'était levé et se préparait sans doute à fondre sur son adversaire. Mais avant qu'il eût eu le loisir d'exécuter son dessein, et même d'achever sa phrase, la bouteille que John serrait entre ses doigts crispés, dardée avec violence, venait l'atteindre au front. Fin du chapitre 5 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 6 de la sixième partie, une histoire sanglante, de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6. Heureusement pour lui, l'cageux avait la fêle couverte d'une épaisse chevelure dont les mèches drues et plantureuses tombaient jusque sur ses yeux. Aussi le cou, affaibli par cette sorte de casque capillaire, ne lui causa d'autre mal qu'un étourdissement passager. Cependant la scène menaçait de devenir sérieusement dramatique lorsqu'un quatrième personnage entra dans le cabinet où se tenaient Mike et ses deux compagnons. « Ah ça !» s'écria le nouveau venu, avec un air de mauvaise humeur prononcé. « J'espère que vous allez me cesser ce tapage-là, ou je vous envoie tous vous rafraîchir au Saint-Laurent. Voudriez-vous pas que la police... »« Chut ! Chut !» dit Mike. « Voilà un mot qui a le privilège de me déchirer les oreilles en 45 parties inégales. » « Bateau !»« Bas les couteaux, bas les couteaux !» enjoignit le barkeeper, remarquant en ce moment John et le cageux, qui, armés chacun d'un poignard, se disposaient à s'écharper pour la plus grande gloire de leur ébriété respective.
« Laisse donc ces enfants se divertir un brin, Stephen !» dit l'Irlandais, en s'adressant au cabaretier.
« Attends, tu vas voir !» répondit celui-ci, sortant de sa poche une paire de pistolets et se jetant entre les deux adversaires qui, la chevelure ébouriffée, les prunelles ardentes, les narines frémissantes, le corps demi-tendu, semblaient mesurer l'intervalle qui les séparait.
« Si l'un de vous fait un mouvement, dit Stephen, je lui fais sauter la cervelle comme à un chien.
« Bateau, j'aimerais être témoin du fait,
dit Mike, qui était flegmatiquement resté assis et continuait de polir la lame de son couteau.
« Arrière !»
dit tout à coup le cageux, essayant d'écarter Stephen pour se précipiter sur John.
« Arrière toi-même !» répondit le cabaretier. « Arrière ou je fais feu !»
Durant ce colloque, John avait pris le bon parti. Il s'était prudemment esquivé.
« Offre gredin !»
dit soudain l'Irlandais, s'apercevant le premier de cette brusque retraite.
« Il a décampé. En place, repos !»«
Oh, il me le paiera !»
mâchonna le cageux entre ses dents.
« Bateau, dit Mike, il l'a échappé belle. Sans toi, Stephen, je crois que ce brave cageux... »«
Est-ce terminé ? »
interrompit le barkeeper.
« Ça m'en a l'air. »«
Non, non, non,
maugréait le cageux, en déchiquetant la table avec son couteau.
« Non, ce n'est pas terminé. Non, je le retrouverai. »«
Admis, fit Mike. Mais pour le quart d'heure, revenons à ma proposition et lavons-nous l'entrepont. Qu'en penses-tu, Stephen ? » ?»«
Je pense... » dit le cabaretier, d'un ton maussade, que vos dépenses s'élèvent déjà à plus de $2 et que vous ne m'avez pas encore montré la couleur de vos piastres.
« Peu !»
siffla l'Irlandais du bout des lèvres.
« Soldez-moi !»«
Vieux ladre, va ! Tu ne sais donc pas que je porte une cargaison de louis, que je suis lesté d'or ? Tiens, regarde ! Brûle-toi les écubiers au rayon de ce métal ! Mais défense à tes vilaines pattes d'y toucher, sinon... »
Disant ces mots, Mike déployait complaisamment sur la table un chiffon sale et crasseux qui renfermait une centaine de souverains en or. Fin du chapitre 6 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 7 de la sixième partie, une histoire sanglante, de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7.
Oh !
Exclama le cageux, dont la colère à l'aspect de ce trésor tomba comme par enchantement.
Oh ! Est-il bien possible qu'il y ait tant de richesses que ça sur la terre ?
Par le corbeau !
Dit Mike.
J'en ai eu bien d'autres en ma possession.
Cédant à une cupidité habituelle, le barkeeper glissait ses doigts velus et crochus entre les bouteilles pour happer quelques-uns des jaunets tentateurs, mais l'Irlandais avait l'œil sur lui.
« Stop ! »
s'écria-t-il, en lui appliquant avec le manche de son poignard un coup sur les ongles. Stephen retira vivement sa main en grondant quelques jurons inintelligibles.
« Tiens, dit Mike, je ne suis pas avare, moi, quand les provisions abondent dans la cale. Voici une guinée, apporte-nous à boire et garde le reste pour toi. »
Et il fit rouler une pièce d'or vers le cabaretier, qui empocha avidement cette aubaine inattendue. L'cageux contemplait toujours le monceau d'or avec plus d'émerveillement que de convoitise.
« Toi aussi, mon pauvre vieux, tu veux ta part ?» reprit l'Irlandais, en veine de prodigalité. « Puise dans le tas, ça ne me coûte pas cher. »
Soit qu'il n'eût pas entendu cette offre magnanime, soit qu'il ne crût pas à un tel accès de générosité, l'cageux ne s'empressa aucunement d'obéir.
« Bost, est-il bête ?»
s'écria Michael, riant et haussant les épaules.
« Approche ta casquette, Nigo. Ne crains rien. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, comme dit l'autre.
« Que d'argent, que d'argent !»
murmurait le cageux.
« Oh, l'animal qui prend ça pour de l'argent! Mais c'est de l'or, du vrai or! Tout ce qu'il y a de plus or! Touche donc, pèse donc, bête brute !»
Et, ramassant une poignée de louis, il les déposa dans la main de son camarade. Fin du chapitre 7 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 8 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 8. Stephen rentrait à cet instant, muni de deux bouteilles aux goulots ornés d'une couronne de plomb. Le visage de l'hôtelier était soucieux, quoique éclairé par un sourire de jubilation. Évidemment, il ruminait quelques tours de passe-passe pour dépouiller Mike. Mais l'Irlandais avait trop fêté l'extrait d'orge et de canne à sucre pour soupçonner les intentions rapaces de Stephen. Du reste, les eut-il pressenti qu'il s'en serait moqué, car, en fait de ruse et de vigueur, Mike ne connaissait pas son maître dans tout le district de Montréal. Il se contenta de rassembler les quatre coins de la guenille qui lui servait de bourse, de les lier ensemble et d'enfoncer le tout dans les profondeurs de son capot.
« C'est bien le cas de répéter que la fortune est aveugle, »
dit-il, d'un ton burlesque.
« Quand je me souviens qu'autrefois nous jouions au palais avec des lingots d'or... Oui, c'était sur le pont du Corbeau. 1 000 000 000 de tonnerres ! En a-t-il vu, en a-t-il vu, en a-t-il senti de cet or ? Quand je vous dirai qu'un jour, étant à court de munitions, nous avons mitraillé une frégate à coups de biscayens d'or, plus que ça de genre, hein ? Fallait voir comme l'ennemi était étonné. Et le capitaine Larençon, comme il était joyeux, jamais je ne le vis plus gai. Au moins, celle-là pourra se vanter que nous ne lésinons pas, disait-il au chef de timonerie, en lui montrant la frégate. Dieu de Dieu, nous achetons cher ses faveurs. Diable de capitaine, va, il avait toujours le mot pour rire. Quand je songe, ça me reproche. Enfin, ohé, buvons. Qu'est-ce que tu manipules là, Stephen ?
Du champagne, répondit le cabaretier, élevant triomphalement les deux bouteilles au-dessus de sa tête.
Du champagne ?
Dit le cageux, au comble de la stupéfaction. Fin du chapitre 8 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 9 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 9.
« Du champagne !» dit Mike. « Débouche ! Stephen, débouche, mon brave ! J'en ai diantrement lampé dans mon temps, nom d'une garcette !»«
Comme ça saute !»
s'écria le cageux, surpris de l'explosion qui suivit la rupture des fils de fer.
« C'est qu'il est fameux !»
répartit le cabaretier, remplissant les verres du liquide pétillant.
« À la nôtre !»«
À la nôtre !»«
C'est fichtrement bon !» dit le cageux, après avoir ingurgité une rasade.
« Où ça se fabrique-t-il, ce vin-là »«
En Champagne, niais, »
répliqua Stephen, d'un ton capable.
« Et où ce que c'est, ça, la Champagne ?»«
Hé, hé, est-il bête, le cageux ?»«
La Champagne, pardi, c'est en Champagne. »«
En effet, la Champagne. »
« Est en Champagne ?»
intervint l'Irlandais. «
Vous êtes fort sur la géographie comme des marsouins sur le calcul. Mais savez-vous dans quelle partie du monde se loge la champagne ?
Dans les grandes Indes, répondit glorieusement Stephen.
Psut !
Tu m'en montreras peut-être, toi, monsieur le savant.
Un peu,
dit Mike, allumant sa pipe.
J'ai voyagé, moi. On ne fait pas le tour du monde sans connaître sa carte.
C'est vrai, appuya le cageux. Mike a eu des aventures. Il a été marin, lui.
Oui, troum de l'air, comme disait le capitaine Larençon, un commandant huppé, mais...
Mais ?
Dame, il avait ses défauts, puis...
Puis ?
Nous avions fini par ne plus nous entendre du tout.
Ah ah ! Fit l'hôtelier, qui s'ingéniait à augmenter l'ivresse de ses pratiques. Conte-nous ça.
Oh, c'est une longue histoire.
N'importe, ça nous aidera à vider quelques bouteilles.
Est-ce que la cave contient encore beaucoup de flacons comme celui-ci ?
Plus que tu en boirais en une semaine.
C'est que, vois-tu, j'ai une soif d'enfer, tout comme si j'avais mangé une demi-livre de poudre.
Allons, renouvelons la dose et tu dévideras ton écheveau, n'est-ce pas ?
Ça va,
s'écria Michael.
Ah, j'en ai vu et j'en ai fait dans ma vie, moi qui vous parle. Bateau ! Quelle kyrielle de péché il me faudra bredouiller au jour du grand jugement !
Les verres furent remplis et sablés trois fois successives. Puis l'Irlandais, d'une voix avinée, commença le récit suivant, souvent entrecoupé de blasphèmes et de hoquets. Fin du chapitre 9 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 10 de la sixième partie. Une histoire sanglante de la fille du pirate. Par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 10.
Il y a 60 ans et plus, je naquis dans un village quelconque de l'Irlande. Le nom de mon père et de ma mère n'ont jamais, que je sache, figuré sur les registres de l'église ou de la mairie. Je ne me suis jamais, non plus, donné la peine de chercher à pénétrer ce mystère. En souvenir unique de mon enfance, je me rappelle les coups de poing de celui-ci, les coups de pied de celui-là. Sans doute, j'étais venu au monde sous une mauvaise étoile. Mais, comme disent les Mahométans, Allah est grand, nul ne peut échapper à sa destinée. À 10 ans, je servais en qualité de mousse à bord d'un caboteur. Là aussi, poings et pieds ne me ménageaient guère. Par bonheur, les auteurs inconnus de ma personne m'avaient doué d'une enveloppe solide et d'un cœur de bronze. Certains soirs, un corsaire jeta sur nous le grappin d'abordage. Le patron et les 4 hommes qui montaient le caboteur fournirent ce soir-là copieux régal aux requins. Et probablement, j'aurais partagé le sort de mes maîtres sans un jeune garçon qui supplia le capitaine du corsaire de me laisser la vie sauve. Le navire qui nous avait capturés s'appelait le Corbeau. C'était bien le plus fin voilier qui jamais eût sillonné les mers. Là, encore tempête de coups de poing et ouragan de coups de pied m'assaillirent plus fréquemment que je ne l'aurais voulu. Mais on m'avait appris que la souffrance est notre lot ici-bas. Je me résignais. Du reste, si le service était rude à bord du Corbeau, nous avions parfois du bon temps. Grâce à mon protecteur, pour qui notre commandant avait une affection toute particulière, j'étais, à quelques orions près, moins molesté que les autres mousses, mes collègues. Les rations de rhum et d'eau-de-vie, les bouteilles de vin des îles même, ne m'étaient point épargnées. Bref, je jouissais comme le poisson dans l'eau. Ça m'allait, cette existence, que voulez-vous ? Aujourd'hui une tourmente, demain un combat, aujourd'hui l'abondance, demain la disette. Aujourd'hui des larmes, des prières, demain du sang, du feu, d'effroyables orgies. Ma foi, j'aimais déjà les émotions. Toutes ces vicissitudes, le fouet, la bastonnade compris, me charmaient plus que je ne saurais dire. 10 années s'écoulèrent, j'étais devenu matelot. Dans une rencontre avec notre corvette de guerre, notre capitaine fut tué. Mon protecteur, Louis Larençon, prit aussitôt le commandement du Corbeau.
Fin du chapitre 10 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 11 de la sixième partie.
Une histoire sanglante de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 11.
Quel homme c'était que le capitaine Larençon mit le sabord ! Dur, implacable, mais habile, mais courageux ! Un jour, il y eut une révolte à bord. Il arrive sur le pont, sans armes. « À mort ! À mort !» crient tous les marinas en se ruant sur lui. Sa vie était en danger, je me précipitai entre lui et les assaillants. « Retire-toi, Mike, me dit-il, je veux donner une leçon à cette bande d'imbéciles. »« Non, répondis-je, ils vous tueront. » Mais il me repousse vigoureusement et, se dirigeant vers le couronnement où se tenaient les conjurés, « Tas de lâches !» leur dit-il. « Que désirez-vous ? » ?»« À mort ! À mort » hurlait-on de toutes parts. « À mort » répéta-t-il. « Y en a-t-il quatre parmi vous qui oseraient lutter avec moi sans armes, comme je le suis ?» Et, en prononçant ces mots, il saisit par le milieu du corps un matelot qui se trouvait près de lui et le lança à la mer, comme il aurait fait d'un boulet de huit, quoi. Les mutins continuent leur vocifération. Un autre matelot va rejoindre le premier, ensuite un troisième, un quatrième. Enfin, tout l'équipage y aurait passé. Ah, je vous le jure, si les corsaires intimidés n'eussent demandé merci. Quel homme que c'était que le capitaine Larençon ! Son nom et celui du corbeau donnaient la chair de poule au plus vieux loup de mer. Il n'y avait pas un port de la Méditerranée à l'Atlantique et de l'Atlantique au Pacifique, où nous ne fussions redoutés comme la peste. Mais c'était sur les côtes du Saint-Laurent, surtout, qu'on avait peur du corbeau. Depuis Montréal jusqu'à Gaspé, il était l'épouvantail des habitants et des navigateurs. Nos têtes avaient été mises à prix. On offrait jusqu'à 20 000 piastres pour celle du capitaine. Oui, par le diable, mais il était plus facile d'achalander que de prendre la tête du capitaine Larençon, ou de l'un de ses hardis compagnons. Moi qui vous parle, j'ai senti deux fois la corde sur ma nuque, et deux fois j'ai fait la nique au bourreau. Regardez !» En même temps, l'Irlandais dénoua l'écharpe graisseuse qu'il portait en guise de cravate et montra à ses auditeurs une raie bleuâtre dont il avait le col entouré. Fin du chapitre 11 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague, en mars 2011.
Chapitre 12 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 12. Où, tonnerre, as-tu attrapé ça ? Dit l'cageux en palpant la meurtrissure du bout de ses doigts.
« Ça, mon neveu, c'est un aimable souvenir de Québec. »«
Un souvenir de Québec ?»«
Ou du bourreau de cette ville, si tu aimes mieux, vilaine tête carrée. »«
Du bourreau ?» répéta le cageux, trop honnête homme dans le fond pour avoir jamais rien eu à démêler avec Dame Justice.
« Du bourreau, un imbécile de ta sorte, qui ne savait pas son métier ou le savait trop, au choix. Car figurez-vous que j'ai été pendu, pendu en chair et en os, moi, Michael, surnommé Mike. »
Blague ! Fit Stephen d'un air incrédule.
Blague ! S'écria l'Irlandais. Qui est-ce qui prétend que je blague ?
Bast ! Reprit le cabaretier. Ne voudrais-tu pas nous faire accroire qu'un pendu revient aussi facilement à la vie qu'un ver qu'on a coupé en tronçons ?
C'est pourtant comme ça, excepté qu'au lieu de me couper le cou, on me l'avait rendu aussi mince qu'un anspect. Ah ! Tonnerre, fallait voir mon physique après l'exécution. J'étais grandi de 6 pouces au moins, et je tirais une langue longue comme la grand vergue de misaine. Et mes yeux, que le diable m'emporte, s'ils ne ressemblaient pas au sabord du corbeau.
Mais enfin, ce n'est pas fort aisé à comprendre.
Je pense bien, puisque je n'y comprends rien du tout moi-même.
Alors ?
Alors, voilà l'affaire en deux mots. Essayez d'être plus malin que moi, et je vous paie double ration de champagne, 1 000 morts.
Nous t'écoutons, dit le barkeeper. Fin du chapitre 12 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 13 de la sixième partie. Une histoire sanglante. De la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 13.
Pour lors, nous avions relâché à Québec. Un soir, ce soir-là, je me disputais avec les pavés, j'entre dans une auberge de la rue Champlain. On dansait. La danse m'a toujours séduit, et dans mon temps je sautais sur le plancher des vaches comme un marsouin qui veut attraper des moucherons. Donc, j'entre dans l'auberge. Il y avait là un joueur de cornemuse qui travaillait son instrument comme un enragé, un nègre qui l'accompagnait sur le tambourin, 5 ou 6 matelots, et une demi-douzaine de pécores plus sales et plus laides les unes que les autres. Voilà que je bois un verre de grog, car j'avais une soif de damné, puis que je tourne le cap sur une gigue. « Bon, que me dit un des matelots, si tu continues de courir débordé comme ça, je vais te mettre à l'ancre, moi. Arrive !» lui répondis-je. Mon homme me tombe sur les épaules. Pif, paf, pouf, nous nous bûchons d'emblée, et, tout à coup, il roule sur le plancher, en beuglant « Je suis mort !» Il avait dit vrai. On m'arrête, on me mène en prison, on me condamne au collier de chanvre, et 8 jours après, je me disposais à aller, le lendemain, présenter mes respects à Milord Satan, quand un individu entra dans mon cachot. C'était le chirurgien du bord, du corbeau, s'entend. Quel homme que ce chirurgien! En a-t-il raccommodé des bras, des jambes, des caboches? Il est trépassé, Dieu va y avoir son âme. Je lui en dois des chandelles. À propos, pendant que j'ai de l'or, il faudra que je lui fasse dire 12 de messes. Si ça ne lui fait pas de bien, ça ne lui fera pas de mal. Eh bien, mon garçon, tu t'es donc laissé pincer? Me dit-il. Pincer? Vous avez dit le mot, major. Dans 12 heures, le déménagement final. Tu es philosophe, Mike. C'est le cas de l'être ou jamais. Toujours sans souci. Le capitaine te remercie de n'avoir pas révélé à quel navire tu appartenais. Dame, major, ça ne m'aurait fait ni chaud ni froid, et une trahison aurait empoisonné mon dernier soupir. Je suis délicat, voyez-vous. Brave Mike. Il n'y a pas de quoi. Je suis venu pour te sauver. Sans plaisanterie, au moins.
Sans plaisanterie.
« Merci, major, mais que faut-il faire ?»«
Te laisser pendre. »«
Hein ?»« Oui, te laisser pendre. » »«
Singulière façon de me sauver, mais en définitive, pendu pour pendu, j'aime autant m'exécuter de bonne grâce. D'ailleurs, j'étais déjà décidé. »«
C'est là tout ce que vous avez à me dire ?»«
Tu n'as pas confiance en moi ?»«
Moi, comment donc, major ? J'ai toute confiance en vous, potence de sort. Je suis sûr d'être pendu demain à 6 heures du matin. »
Et d'être ressuscité?
Ça, c'est une autre question. Le temps des miracles est joliment loin, hé hé.
Ce qui n'empêchera pas d'en faire un en ta faveur, si tu y consens.
Pas d'objection, pas d'objection, faites, major. Il me baragouina alors un tas de phrases dans lesquelles je ne voyais que du feu, et, bref, finit par me percer un petit trou au milieu de la gorge, y introduisit une sorte de tube en argent, et me demanda si ça me faisait souffrir. En tout cas, ça ne me procure pas des jouissances excessives, répliquai-je. Mais tu pourras néanmoins marcher jusqu'au lieu du supplice.
Cette bêtise.
Bon, maintenant tu peux être certain de vivre aussi longtemps que Mathusalem. Je ne le souhaite pas, major. Là-dessus, il me quitte, après quelques recommandations. L'opération avait duré jusqu'à 2 heures du matin. À vrai dire, je ne comptais pas prodigieusement sur le chenot que le major m'avait placé au beau milieu des œuvres vives. Cependant, quand le bourreau vint me chercher, il m'adressa un signe d'intelligence qui me parut de bon augure. « Je voudrais bien un verre de quelque chose avant d'appareiller pour l'autre monde, » lui dis-je. « Je ne vous le conseille pas, » reprit-il en portant la main à son cou. C'était significatif.
« En route, nom d'une bombe !»
Ne haussez pas la voix. « Et même abstenez-vous de parler, » me souffla-t-il à l'oreille.
« Pourquoi ça ?»«
Pourquoi ? Ça pourrait déranger l'appareil. »« Brigand d'appareil, mais s'il ne réussit pas, je monterai là-haut sans être lesté, car crever sans avoir...
Marchons. »
Parole d'honneur, je me sentais le cœur gros de partir pour l'enfer, l'estomac vide. Néanmoins, j'obéis. On m'a raconté que 20 minutes après cet entretien, je me balançais au bout d'une vergue, comme un drapeau au bout de sa drisse, et que les oiseaux de proie s'apprêtaient, en chantant mes funérailles, à banqueter sur ma carcasse. Quoi qu'il en soit, je me réveillais sur le pont du Corbeau, et voilà.
Mais, dit le cageux, on ne t'avait pas pendu?
Pas pendu? Que si! Pendu tout ce qu'il y a de plus pendu. Seulement, lorsque le shérif eut dressé mon procès-verbal constatant mon décès, on me dépendit à la hâte et on me transféra à bord de notre navire, où, grâce aux soins du major, je fus radoubé, ragréé et capable de remettre à la voile dans l'espace d'une semaine. Trouvez-moi aujourd'hui des chirurgiens comme notre major Dupré.
Note, cette cure n'a rien d'invraisemblable. Les annales de la médecine offrent plusieurs traits du même genre. On se rappelle encore qu'en 1727, lors des troubles qui eurent lieu en Espagne, un individu, appartenant au parti libéral, fut pendu à Barcelone et sauvé par un chirurgien qui, antérieurement à la strangulation, lui avait pratiqué, près de l'os hyoïde, une incision dans laquelle il avait glissé une petite sonde pour entretenir un courant d'air entre les poumons du condamné et le monde ambiant. Fin de la note.
« Buvons à sa santé, » dit Stephen.
« Ah, il a dignement mérité un toast, » ajouta Mike. « Ce qui m'étonne, c'est qu'il s'est laissé sombrer, lui qui a tant arraché de chrétiens à la Camarde. »«
À sa santé !» cria le cageux.
« Cependant, je ne m'explique pas parfaitement. »
« Qu'à cela ne tienne !» interrompit brusquement le cabaretier. « Vide ton verre, cela vaudra mieux que de nous assommer avec tes réflexions aussi saugrenues que ta personne. »
Fin du chapitre 13. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 14 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 14. Ce dialogue fut suivi d'un intermède, durant lequel le choc des verres succéda au cliquetis des paroles. Mais bientôt le barkeeper fit remarquer que les bouteilles étaient vides.
« Va en chercher d'autres, ivrogne, » lui répliqua Mike. « Du reste, apporte ta cave ici, je veux la boire, ta cave, moi, et toi par-dessus le marché. »«
Farceur !» ricana Stephen en s'éloignant.
« Du même, encore du même, toujours et toujours du même !» lui cria l'Irlandais. « Le champagne était ma liqueur favorite autrefois. Je ne sais pas comment j'ai pu changer de goût. Ah, si ma bourse n'avait pas varié! Mais tout est fragile en ce monde. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Hormis le gin, le whisky et le champagne. Le reste, psit, je m'en soucie comme d'une chaloupe défoncée, étoile cageux. Tu ne dis rien, tu te tiens là comme une tanche pâmée sur une botte de paille. Je gage que tu es déjà pochard. Blanc bec, va. Deux verres de vin, ça leur tourne la boule à ces mariniers d'eau douce. Regarde-moi et imite-moi. Je suis solide à un coup de liquide comme l'était le corbeau à un coup de mer. On n'a pas été corsaire pour rien, qu'en dis-tu, mon bonhomme? Oh, hé, qu'est-ce qui me passe donc devant les yeux? Ça ressemble pas mal à un nuage. Bon, voilà que tout vire autour de moi. Et le cageux, pourquoi diable t'amuses-tu à danser comme ça sans ma permission? Ce n'est pas joli de danser sans les camarades. La table et les chaises qui s'en mêlent. Allez, allez, je ferai l'orchestre. Pas de raison pour que ça finisse. Quelle tempête! Notre cabine roule de tribord à bâbord comme si Lucifer la secouait dans ses bras. Ohé, arrêtez, je m'oppose. Jette la dernière ancre, le cageux. Bravo, voilà Stephen. Verse-moi à boire, l'ancien. Je sue toutes les larmes de mon corps. »
Fin du chapitre 14 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 15 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 15. L'ivresse de Mike avait pris un caractère d'hallucination fiévreuse. Il était à présumer qu'une seule goutte de boisson forte achèverait de le tuer. Se flattant de cet espoir, l'hôtelier, qui convoitait le magot de l'Irlandais, s'empressa de lui servir une forte rasade d'eau-de-vie. mais il s'était trompé dans ses conjectures, car à peine l'ex-flibustier eut-il ingurgité le breuvage qu'une réaction s'opéra subitement dans ses manières. Il recouvra une sorte de lucidité factice. Ce phénomène n'est point rare dans les cas d'ébriété complète.
« Je crois que tu as envie de me naufrager, mon drôle, » dit-il à Stephen. « Ah, ah, ça te ganterait d'hériter de la cargaison de l'ami Miko, hein ?»«
Bast !» articula Stephen en se mordant les lèvres.
« À ton aise, prends-la si tu veux. En attendant, emplis le verre de ce pauvre cageux qui doit être altéré comme une éponge desséchée au soleil des tropiques. »«
Non, je ne bois plus. »«
Tu dis ?»«
J'en ai assez, je m'en vas. »«
Peu. » »«
Il faut que je travaille demain. » »«
Je ne t'en empêcherai pas, tonnerre. Le travail est l'ami de l'homme. Mais il est 1 h du matin, tu as encore 24 heures à passer avec nous pour être à demain. Ainsi, ne forçons pas la consigne. » D'ailleurs, je veux vous conter l'histoire de mes louis. Une belle histoire.
Ça va, dit Stephen. Fin du chapitre 15 de la 6e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Poulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 16 de la 6e partie. Une histoire sanglante de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 16.
Pour lors, reprit Mike, le capitaine Larençon avait à bord du Corbeau une coquine de femme qu'il aimait autant que je la détestais, car il est bon de vous dire qu'elle me rendait la pareille avec usure. Ça, simplement parce que j'avais averti le capitaine que la particulière avait du goût pour le lieutenant. Dieu de Dieu, m'en a-t-elle valu des récompenses de Garcette la gredine? Heureusement, je ne suis pas un ingrat, et je l'ai payé capital et intérêt. Pour lors, un jour que nous flânions sur les côtes de Terre-Neuve, voilà que le matelot de Vigie signale un brick, l'Alcyon. Je n'oublierai jamais ce nom-là. En moins de rien, le brick était coulé avec tout son équipage et son chargement passé à notre bord. Le soir, le capitaine Larençon m'appelle dans sa cabine. « Mike, me dit-il, n'y avait-il pas un grand jeune homme, pâle, aux cheveux blonds, parmi les passagers du navire que nous avons capturé cet après-midi? Je ne le sais que trop, commandant, car le dit jeune homme pâle, aux cheveux blonds, a gratifié votre serviteur d'une paire de soufflets dont ses épaules garderont longtemps la mémoire. Je ne te demande pas d'observation. Qu'est devenu ce jeune homme?
Ma foi, commandant, il a subi le sort ordinaire. Ça m'a fait de la peine, car il était brave, ce muscadin. « Si vous l'aviez vu se défendre !»«
Pauvre Charles !» murmura alors le capitaine Larençon. « Que n'ai-je su plus tôt ?»«
Comment ?»«
C'était mon frère. »«
Votre frère ?»«
Eh oui, il se rendait au Canada. Les papiers qui sont sur cette table me l'ont appris. Mais ne dis-tu pas qu'il s'est bien battu ?»«
Comme un lion, commandant, comme un lion ! Avec une barre de cabestan, il a éreinté 2 des nôtres et blessé 1/2 douzaine d'autres. Et sans le second?
Sans le second?
Diable, du train où il y allait, nous aurions bien pu passer un mauvais quart d'heure.
Mais le second, s'écria le capitaine en brisant la table d'un coup de poing, signe qui m'annonça qu'il était temps de faire les voiles, si je ne voulais pas recevoir une bourrasque par le travers. Le second, répliquai-je, oh! Il lui a envoyé une balle en pleine carène.
Fin du chapitre 16 de la 6e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 17 de la 6e partie. Une histoire sanglante. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 17.
C'est bien, me cria-t-il alors, d'un ton aigu, comme le grincement d'une scie qui accroche un clou. Va-t'en. Vous comprenez que je ne me fis pas prier. Quel grain! Ah, si vous eussiez vu le capitaine Larençon, ventre de baleine, était-il un peu en colère? Quand je vous dirais que les écubiers lui sortaient de la tête, que ses cheveux étaient droits et raides sur son crâne, comme des cabillauds dans les râteliers, que ses dents craquaient comme s'il eût broyé des galets entre leurs marteaux, et que, dans ses mains crispées, il brisait la coquille de son sabre. Pour lors, je virai de bord. Le lendemain, pas plus de lieutenant sur le corbeau que dans la paume de ma main. On nous assura que, durant la nuit, notre dit lieutenant avait fait un plongeon dans la grande tasse. Les autres en prirent ce qu'ils voulurent. Pour moi, je savais à quoi m'en tenir. Notre commandant avait lâché une bordée au second, vous sentez. Bon, à partir de ce moment, tout fila de mal en pis. Le corbeau fit naufrage. Pauvre corbeau, va. Le capitaine Larançon, trois des nôtres et moi, échappèrent seuls. C'est dans les parages de Cuba que nous échouâmes. Après ça, nous fîmes la traite des Noirs, avec une barque affrétée par des armateurs. Chien de métier que celui de pourvoyeur de chair humaine, mille tonnerres! Ça dura 2 ou 3 ans. Il y avait longtemps que nous étions débarrassés de cette chipie dont je vous ai parlé. Dans un abordage, elle s'était fait larguer la poulaine. Note, la poulaine, dans le langage figuré des matelots, est le nez du navire comme les écubiers en sont les yeux. Par larguer la poulaine, Mike veut dire couper le nez. Fin de la note.
Et le capitaine l'avait alors renvoyée à Montréal avec une bonne pacotille de dollars, car dans ce temps-là, comme je l'appris plus tard, il n'était pas regardant, le capitaine. Le trafic africain ne donnait pas. Un beau matin, le commandant Larançon et moi, nous nous trouvâmes aussi à sec sur le pavé de New York que des morues sur une botte de paille. Faut vous dire que, malgré tout, je l'aimais encore, le commandant. À preuve, c'est que je le suivais comme un chien. Ma foi, ne sachant plus où prendre le vent, nous nous étions engagés sur un baleinier, lui comme second, moi comme maître d'équipage, et nous avions touché 3 mois de solde à l'avance, quand le capitaine me dit « bonne chance, troun de l'air, Mike !»« Quoi donc, commandant ?»« Mon père est mort aux Indes, en laissant une fortune considérable. »« Pas possible !»« Aussi vrai que je te le dis, mais il paraît que mon frère, Charles Bourgeot... »«
Bourgeot ?»«
Oui, c'est mon nom véritable. Larançon n'est qu'un pseudonyme. »
Et
comme on ne suppose pas que j'existe, mon frère Charles reste l'unique héritier.
Mais comment savez-vous?
En lisant un journal anglais, j'ai vu qu'on mandait Charles Bourgeot au consulat de France. Je m'y suis rendu. Le consul m'a dit que mon frère résidait à Québec. Conçois-tu?
Mais, commandant, votre frère Charles, mais n'est-ce pas lui qui...
était à bord de l'Alcyon? Je n'osais vous rappeler ce souvenir. S'il y a au monde un Charles Bourgeot, natif de Marseille, c'est lui.
Paste, c'est impossible, puisqu'il a été tué et jeté à la mer.
Si c'est un imposteur, tant mieux.
De fait, vous serez le légataire universel. En attendant, dépêchons-nous de faire voile vers la métropole du Canada.
Et notre engagement?
Imbécile!
Nous sommes en route. Va comme je te pousse, si tu t'orientes bien, tu toucheras à bon port. Après 10 jours de marche, en bateau et en stage, nous jetons l'ancre à Québec. Fameuse ville, potence des potences, que Québec, quoique j'y ai dansé la danse des pendus. Quel gin, quel whisky! Et le rhum, donc! Enfin nous amarrons. Le commandant Larançon ne perd pas un nœud de temps. Il vous fait des recherches, et le même soir, il est renseigné.
« Mike, qu'il me dit. »
« Présent, capitaine. »«
Tu m'es dévoué. »«
Jusqu'à la culasse, capitaine. »«
Nous allons être riches, si tu veux. »«
Riches, ça m'accommode. Que devons-nous faire ?»«
Nous aurons un trois-mâts et tu seras mon second. »«
C'est diantrement de l'honneur, capitaine. Mais que faut-il gréer pour cela ?»«
Presque rien. »«
C'est encore mieux. »«
Cependant... »«
Ah, j'écoute. »« Mon frère Charles, à ce qu'il paraît, n'a pas été tué comme tu le pensais. » Encore moins lancé à la mer.
Hein? J'en doute.
Voici ce qu'on m'a raconté. Il aurait été blessé, serait demeuré inaperçu à bord de l'Alcyon, et après notre départ, un bateau pilote l'aurait recueilli, transporté à Halifax.
Ça sent tonnerrement le mystère.
J'en conviens, mais il possédait des papiers qui ont établi son identité. Bref, il est venu à Québec où il s'est marié.
C'est toujours drôle.
Bref, il est mort dernièrement.
Ah, je commence à respirer, capitaine.
Mais il a laissé un enfant.
Et une femme?
Non, sa femme l'avait précédé au tombeau.
Reste à l'enfant.
Oui, dit le capitaine, d'un air qui avait l'air d'avoir deux airs. Connu, commandant.
Que veux-tu dire?
L'enfant nous gêne.
Troune de l'air! Quel âge?
2 ans à peine.
Facile de s'en délivrer.
Je joignis les mains pour donner du sens à mes paroles.
Non, pas ça, répondit-il en se frappant le front. Pas ça.
Il était curieux parfois, le capitaine Larençon. Sur terre, une véritable poule mouillée. J'exécuterai vos ordres.
Me jures-tu?
Sur l'âme de mon père que je n'ai jamais connu.
Tu enlèveras l'enfant et me l'apporteras à Montréal. Mais je ne veux pas que mal lui arrive.
On le soignera, fiez-vous à moi.
Pour lors, le capitaine m'indiqua l'endroit où le poupard avait été mis en nourrice. Puis il me dit,
« Tu mettras le feu à la maison, tu sauveras la petite pendant l'incendie et la conduiras à Montréal. »
« Pourquoi mettre le feu à la maison ?»«
Eh, afin qu'on croie l'enfant brûlé. »
« Magnifique, commandant, magnifique !»
Tout alla pour le mieux. Le capitaine se procura même, je ne sais trop comment, un lot de billets de banque avec lesquels nous fîmes une ripaille.
Enfin.
L'enfant fut mené chez la mère Juliette, à Montréal. La mère Juliette était l'ancienne maîtresse du capitaine Larençon. Ici, on l'avait baptisée la Camarde.
Fin du chapitre 17 de la 6e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 18 de la 6e partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 18.
La Camarde ! Interrompit l'cageux. Maintenant, je me souviens d'elle comme d'hier. Elle habitait une masure du faubourg Québec. C'était une femme hideuse, sans nez.
C'est cela même, répliqua l'Irlandais.
N'a-t-elle pas été rôtie avec sa cassine?
Attends, tu le sauras.
Puis, Mike, ayant bu un verre d'eau-de-vie, reprit son épouvantable récit. Fin du chapitre 18 de la 6e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 19 de la 6e partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 19.
Donc j'avais transporté l'enfant chez la Camarde. C'était en hiver. Il faisait un froid de loup. Pour me réchauffer, je m'amusais à pinter quelques verres en attendant le capitaine Montbourgeois, comme il m'avait ordonné de l'appeler depuis que nous avions quitté la marine. Pendant ce temps, la vieille sorcière ne s'avisa-t-elle pas de vouloir nager dans nos eaux? Ah oui, c'est bien à Mike qu'on joue de ces tours-là. Le commandant arriva, plus d'enfants. Quelle rage! Une tonne de salpêtre embrasée, quoi! Il commença à taper sur la Camarde, pif, paf, pouf, comme s'il eût touché sur un matelas. Jamais distribution ne fut plus équitable et plus complète. Je jouissais dans ma peau comme un porc dans une mare. Tonnerre! Avec quel courage le capitaine travaillait! Ce n'était que le début. Juliette prétendait que l'enfant avait gagné le large. Un enfant à la mamelle! Il aurait fallu être bête pour avaler celle-là. Pour lors, je sentais se réveiller ma petite inimitié pour la Camarde. En voyant le capitaine Larençon bûcher, ça me donna envie d'en faire autant. Fantaisie assez naturelle, n'est-ce pas? Je suis sympathique et rancunier en tonnerre, moi. Donc, je réfléchis que Juliette pouvait bien avoir caché l'enfant pour s'en servir contre nous, et je le dis au capitaine.
Stop!
Bon, je jette le grappin d'abordage sur ma satanée Camarde, qui s'était réfugiée dans la cuisine comme une sournoise, et je lui dis. Où donc est la petite?
C'est pas.
Ah ah! Je vais te rafraîchir la mémoire. J'avais mon knife, note, un couteau.
Fin de la note.
Un beau knife, un souvenir d'autrefois. Le tirant de ma poche, j'en caresse la peau de la vieille, histoire de la raser, je vous assure, car elle avait des poils longs comme des ralingues. Elle crie à son chien,
« Ici, hurleur !»
Peu. Maître Hurleur me chatouillait déjà les mollets. Oh, oh, un moment, un moment. Deux coups de couteau envoient ledit chien où nous irons tous quelques jours. Juliette essaya de tirer une bordée. Pas si vite, l'ancienne. Que diable, est-ce que deux amis comme nous se sépareront sans se serrer la main? Au secours! Où est la petite? Réponds-moi et dépêchons. Je ne veux pas le dire. Alors, je la déterrerai. Et mon couteau faisait une large trouée dans la carcasse de la Camarde. C'était justice. Jamais ma conscience ne m'a reproché ce péché véniel. Je trouvai l'enfant caché dans un caquet de guenilles. L'ayant rapporté au capitaine Larençon, je mis le feu à la cambuse qui, au bout d'une heure, était réduite en cendres. Buvons encore, mille caronades. Buvons, car j'achève.
Fin du chapitre 19 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 20 de la sixième partie, une histoire sanglante, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 20.
Buvons, répéta le cageux, se croyant en proie à un affreux cauchemar.
Buvons jusqu'à la mort, ajouta Stephen, atteint lui-même de l'ivresse qui flamboyait en gerbes de flammes dans le cerveau de ses hôtes.
Oui, buvons des bouteilles, des tonnes, buvons un lac d'eau-de-vie.
Après une pause de quelques minutes, Mike reprit la parole. Fin du chapitre 20 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 21 de la sixième partie, une histoire sanglante, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 21.
Ça finira mal. J'ai quelque chose qui m'avertit. Enfin. Pour lors, le capitaine devait faire disparaître l'enfant et se rendre en Europe afin d'y recueillir la succession de feu son père. Moi, je devais l'attendre aux États-Unis, où il viendrait me prendre avec un nouveau corsaire. Il m'oublia. 16 années se passèrent sans que j'en entendisse parler. Durant cet intervalle, je roulais ma bosse de côté et d'autre, et par aventure tombais, il y a quelques semaines, à Montréal. J'étais aussi sec qu'un rat d'église. À mon âge, on ne vit pas d'amour et d'eau claire. J'entre chez un changeur, je lui présente un bill de ma façon. On m'empoigne sous prétexte que le bill était faux. 10 ans de pénitencier en perspective, quelle chance! Un brave jeune homme, un républicain comme ils disent, devient mon compagnon de cachot. Nous tâchons de nous échapper, il y parvient. Moi, je me fais rempoigner. Mais une diablesse de sentinelle, Dieu la bénisse, m'avait blessé. Presque rien, un bobo. On m'envoie à l'infirmerie. Quelle chance! Le lendemain soir, je réussis à dérober les habits d'un de nos gardiens. Je me les flanque sur le dos et vous tire loyalement ma révérence à la prison, par la grande porte, s'il vous plaît. Ah! Mike n'a pas froid aux yeux, c'est moi qui vous le dis. Une fois dehors du pétrin, que faire? Je commençais à tirer la langue quand, dans une barre, on prononça le nom de Bourgeot. Bourgeot, me dis-je, hein? Est-ce que ce serait le capitaine Larençon? Veillons au beau soir, tonnerre, ça mérite considération. Un temps, deux mouvements, je suis chez mon particulier. Il était logé comme un prince, de la soie, du velours, de l'argenterie, plus que ça de genre. L'eau me montait à la bouche. Du reste, il avait toujours beaucoup aimé la bagatelle, le capitaine Larençon. Pour lors, ledit Bourgeot arrive. C'était mon homme, mon ancien commandant, le capitaine Larençon. Mais changé! Il avait fait cargaison de graisse. Tout autre que moi ne l'eût pas reconnu. Dans ma joie, je courais pour l'embrasser. Que voulez-vous? Capitaine! Il pâlit. Je suis Mike, votre... Ce nom m'est étranger. Là-dessus, il me tourne le dos et on me campe à la porte. En ville, j'apprends que ce ruffien de Bourgeot était français, natif de Marseille, débarqué ici il y a plusieurs années, qu'il avait épousé une veuve et adopté le fils de cette femme. Il se donnait pour commerçant retiré des affaires, voyez-vous ça, ventre de baleine! Ah, mon vieux coquin, Tu veux manger la poire que j'ai cueillie ? Minute, minute ! J'aurais pu l'expédier à la potence par l'entremise du bourreau, mais ce moyen était compromettant et le résultat peu fructueux. Je patientais. L'occasion de me venger s'offrit bientôt. Hier, je sus d'un domestique que mon ex-capitaine partirait dans la nuit pour sa maison de campagne. J'embauche deux Irlandais et nous établissons une croisière au pied de la montagne. Bateau, comme j'étais content! Mon cœur battait! Oh, les ingrats, je les déteste! Brigand de capitaine, m'avoir reçu comme ça, moi qui avais fait sa fortune!
Fin du chapitre 21 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulay à Copenhague en mars 2011. Chapitre 22 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate, par Henri-Aimé le Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 22. Mike ne put compléter sa phrase. Plusieurs agents de police venaient d'envahir soudainement le cabaret et de se précipiter sur les trois buveurs. En vain ces derniers opposèrent une vive résistance. Ils furent garrottés et conduits à la prison de Montréal, où l'Irlandais entra en répétant
« Ventre de baleine, je pensais bien que ça finirait mal. »
Fin du chapitre 22 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulay à Copenhague en mars 2011. Chapitre 1 de la septième partie, deux amants, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. Alphonse à Angèle. New York. Mademoiselle, n'ayant point eu le bonheur de vous voir avant mon départ, je n'ai pu vous demander la permission de vous écrire quelquefois. Telle était cependant mon intention. J'en ai fait part à notre excellent ami, M. Jobinet. Pour toute réponse, il a souri. J'en ai conclu qu'une lettre de moi ne vous déplairait pas. Si je me suis trompée, excusez mon erreur, mademoiselle. Je ferai tout au monde pour la réparer, car rien ne me serait plus pénible à supporter que votre courroux. Cette lettre, je vous la dois, comme je vous dois la vie. Deux fois vous m'avez arraché à une mort certaine, et je n'ai pu encore vous exprimer les sentiments de reconnaissance qui débordent mon cœur. N'est-ce pas, mademoiselle, que je serais bien ingrat si maintenant j'oubliais votre sublime dévouement et les périls que vous avez courus pour me mettre en sûreté? Peut-être aurait-il été plus convenable que j'adressasse ma missive à votre bon père Morlaix. Peut-être l'eussiez-vous préféré. Mais j'éprouve, en songeant à vous, une émotion inexprimable, des palpitations étranges que je n'oserais confier à un homme. Vous êtes femme et vous saurez me comprendre. Ou du moins vous ne rirez pas de moi, naïf jeune homme, à peine entré dans la vie, qui n'ai vu le monde que dans un chantier ou à travers les livres. Ces livres m'ont dit que votre sexe était meilleur et plus délicat que le nôtre. Je le crois, car ma mère est bien bonne, allez, mademoiselle. Et si la douleur se glisse maintenant dans mon âme, c'est quand je pense à cette pauvre vieille mère que mon exil doit affliger si cruellement. Mon Dieu, pourquoi donc n'aimons-nous tant pas autant nos parents lorsque nous sommes auprès d'eux que lorsque nous en sommes séparés? Cela ne viendrait-il pas de ce que près d'eux, nous n'avons pas conscience de leur affection? Ces mille petits soins, ces attentions vigilantes dont ils nous entourent, semblent naturels, parce que l'on y est accoutumé. Nous n'y attachons pas de prix, sachant ou croyant qu'ils nous sont dus. Mais que nous quittions le foyer domestique, qu'au lieu de voix amies nous entendions autour de nous des voix étrangères, qu'au lieu de la prévoyance maternelle, nous soyons obligés de demander aide à des soins mercenaires, et nous commençons à apprécier la valeur des liens du sang. L'affection qu'alors on porte à sa famille trouve sans doute son mobile dans l'égoïsme. On aime ses proches beaucoup pour soi. Mais cet égoïsme est si naturel de part et d'autre. C'est une chaîne si douce à porter que je la regarde comme le plus grand des bienfaits que nous ait donné la Providence. Oh oui! Car aimer les nôtres pour nous-mêmes, c'est les inviter à nous aimer et entretenir ainsi dans la société de saintes relations dont la bienveillance et la charité tiennent les fils imperceptibles.
mais je m'oublie à vous parler un langage auquel une jeune fille n'est pas habituée. Pardon, je n'ai, voyez-vous, personne à qui je puisse communiquer toutes les pensées qui flottent devant mon imagination depuis mon arrivée ici. Ma mère est bonne, mais elle n'a jamais su lire dans mon cœur, et j'ai un caractère si expansif. Si cette lettre vous ennuie, jetez-la au feu. Cependant, soyez assurée, mademoiselle, que vous aurez toujours, en moi, un ami fidèle jusqu'à la mort. Que bizarre est notre rencontre! Et qu'il doit y avoir de force dans votre caractère, d'héroïsme dans votre noblesse, pour m'avoir secouru comme vous l'avez fait. Une autre que vous se serait évanouie, ou aurait crié au secours. Mais vous, mademoiselle, vous n'avez pas frémi, vous n'avez pas tremblé. Vous m'avez soignée, moi, inconnue, moi, couvert de sang et de vêtements misérables. Vous m'avez soignée comme une sœur soigne un frère. Oh, je me le rappelle, en reprenant mes sens, je crus un instant que mon âme ravie à son enveloppe terrestre avait été transportée dans une autre sphère, où une sylphide, un ange, l'avait prise sous sa protection. Le rêve dura longtemps, jusqu'au jour où je m'éveillai dans cette blanche chambrette que vous savez. Combien j'eusse été heureux d'expirer durant ces heures de fièvre ardente! Je nageais dans un tel océan de bonheur! Néanmoins, chose singulière que je ne m'explique pas, après être sorti du délire, en vous apercevant, à quelques pas de moi, en me convainquant que je n'étais pas le jouet d'un rêve, que la réalité m'environnait, je pris goût à l'existence. J'envisageais avec effroi les dangers de ma position. Je priais dans mon cœur l'Éternel de m'arracher du trépas. Quelle est donc la signification de ces incohérences? Aujourd'hui encore, tantôt je me cramponne à la vie de toute la puissance de mon être, tantôt je suis prête à m'abandonner au désespoir. Je voudrais ne vous parler que de vous, mademoiselle. J'aurais plaisir à vous dire combien, malgré notre courte connaissance, je me suis pénétrée de la sublime harmonie de vos qualités. Il me serait agréable de retracer les poétiques images que votre présence fait concevoir, mais les malheureux n'ont d'amour que pour leurs misères vraies ou supposées. C'est principalement dans la lutte avec l'infortune que nous nous cuirassons de personnalité, qu'il faut de courage pour supporter la douleur au sein de la gaieté. J'avais cru que je possédais ce courage. La prison, la triste perspective d'une condamnation à mort, me trouvait insensible. Sans mon compagnon de cachot, jamais peut-être la pensée d'une évasion ne me fût venue. Il me semble que j'aurais marché d'un pas ferme au supplice. D'où vient que, maintenant, je suis plein d'hésitation et d'incertitude. Les États-Unis ne sont-ils pas la plus magnifique contrée possible? N'ai-je pas la gloire de prospérer en paix, à l'ombre de la bannière étoilée? Oh, quel mystère que nos passions! Dès ma plus tendre enfance, j'ai chéri la République. En sortant du collège, je soupirais pour le jour où je pourrais aller m'établir dans les États. À présent, j'y suis. Matériellement, j'ai autant de jouissance que j'ai prétendu en avoir, et, je le confesse, la mélancolie règne constamment sur mon front. En quittant les rives de notre fleuve majestueux, ma poitrine s'est soulevée et des larmes abondantes ont coulé de mes yeux. N'eussent été les exhortations de M. Jobinet, qui m'accompagna jusqu'à Saint-Jean, je me serais livrée à mes ennemis plutôt que de m'exposer aux tristesses de l'exil. Oh oui! J'ai laissé là-bas, sur le sol natal, la meilleure partie de moi-même. Québec, Montréal, je vous vois sans cesse dans mon sommeil, comme dans mes insomnies. En vain j'ai cherché ici quelques distractions. Le bruit, le mouvement m'irritent. Les théâtres me sont insupportables. Ni la méchanceté, ni l'envie ne forment l'essence de mon tempérament. Et je me surprends à envier la fortune de ces heureux de la terre qui passent à côté de moi emportés dans leurs brillants équipages. Et je déteste parfois ces femmes étincelantes de parure que je vois au spectacle. N'est-ce pas honteux? La vertu ne serait-elle donc qu'un masque sous lequel on déguiserait plus ou moins habilement les tentations, les vices secrets? Ou bien ne serait-elle que le triomphe accidentel de la raison, sans cesse aux prises avec la bestialité? Où est la lumière sacrée? Où est le vrai? Mon Dieu,
qu'il est difficile d'être sage ici-bas, nous contemplons, nous aimons, nous admirons ou nous regardons, nous jalousons, nous haïssons. Affreux dilemme. Oh, qu'il se trouve faible, l'homme, quand il s'essaie à la définition. Est-il né pour la souffrance ou la félicité? Le savoir l'écrase, l'ignorance l'abrutit. Nous devons accepter la science de la vie formulée ou la rejeter. Mais si nous l'acceptons, que reste-t-il au progrès, à la perfectibilité? Rien. Marche ! Nous crie une voix intérieure. Et nous marchons d'ombre en obscurité, d'obscurité en ténèbres, de ténèbres en opacité. L'Antiquité éclairée trébuche dans son acheminement. Les âges contemporains ferment les yeux pour franchir le précipice. Entendez-vous ce cri de Shakespeare « To be or not to be » Ne tremblez-vous pas à l'expression de Montaigne « Que sais-je ?» Et les fluctuations de Gassendi, les ballottements de Descartes, les tressaillements de Locke, les sueurs froides de Pascal, le rire amer des encyclopédistes, ne nous abreuvent-ils pas d'incertitude ? De quoi vais-je vous entretenir, mademoiselle ? Pure, chaste et douce, vous affectionnez le bien par sentiment plutôt que par devoir. Tout vous sourit en cette vie. Votre sentier est jonché de fleurs odorantes. N'est-ce pas mal à moi de vous montrer les épines qui hérissent le mien ? Mais j'ai toute confiance en votre bonté. Elle excusera mes écarts, n'est-ce pas ? Il doit être si doux de pardonner au malheur. À New York, ma situation financière est tolérable. J'ai trouvé de l'ouvrage comme employé chef chez un armateur. Mes compagnons de travail compatissent à mes maux, et vraiment je serais content de ma destinée si le souvenir de la patrie... Enfin. Adieu, mademoiselle. Puisse ma lettre ne pas être repoussée en parvenant à sa destination. Elle porte avec elle tout mon espoir et l'expression de la reconnaissance inaltérable d'un homme qui sacrifierait, si vous l'exigiez, sa vie pour la vôtre. Alphonse Maigret. P.S. Après ma mère et vous, mon cœur appartient tout entier à nos amis Pierre Morlaix et Jobinet. Fin du chapitre 1 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 2 de la 7e partie, Deux amants, de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. Qu'on juge de l'étonnement d'Angèle en lisant cette singulière lettre. Les fleurs de sensibilité, hérissées par les ronces du doute, qui y épanchaient leur suave parfum, causèrent à la jeune fille un trouble inexprimable. Si elle ne comprit pas tout d'abord les terreurs qui frémissaient dans le sein d'Alphonse, si sa philosophie absinthée de tristesse s'égarait dans des régions trop aériennes pour empoisonner le cœur religieux et croyant de notre héroïne, les vagues aspirations qu'on voyait trembloter dans cette lettre, comme la goutte de rosée à l'extrémité d'une branche d'aubépine, les demi-aveux qu'on y dévoilait devaient toucher et séduire une femme. Peut-être, en écrivant, l'exilé s'ignorait-il lui-même. Mais Angèle, avec la pénétration de son sexe, surprit le secret d'Alphonse. Sûre d'être sérieusement aimée, elle se demanda si elle aimait. Alors la rougeur monta à ses joues, son pouls battit violemment. Ce fut tout. La jeune fille laissa échapper le papier qu'elle tenait dans ses blanches mains, et son imagination se prit à vaguer à travers les bocages odorants de la rêverie. D'abord, de gracieuses images, papillons folâtres aux ailes d'or et d'émeraude, voltigèrent devant ses yeux à demi-clos. Elle se promena sur le bord d'un beau lac, ombragé par les rameaux des arbres touffus, mollement appuyée au bras d'un ange. L'onde murmurait à leurs pieds. Les vives libellules jouaient sur les touffes de nénuphar. L'abeille bourdonnante pompait le suc des plantes aromatiques. Et perdu dans le feuillage, un rossignol conviait la nature aux délices de ses harmonieux concerts. Qu'il faisait bon marcher ainsi, oublier la vie, pour s'enivrer au charme de cette amoureuse journée. Ils avançaient lentement, bien lentement, échangeant de rares paroles. Mais ces paroles étaient autant de perles précieuses, de mélodies ineffables. Et puis, elles étaient entrecoupées de ces longs silences qui sont les plus chers entretiens des âmes aimantes. Comme ils savouraient le bonheur d'exister l'un pour l'autre. Et le sentier fleuri, sur le bord du lac, se déroulait toujours charmant, et aucun nuage n'ouatait l'azur du ciel, et ils s'endormaient ainsi dans l'extase d'une mutuelle félicité. Fin du chapitre 2 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 3 de la 7e partie, Deux amants, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Tout à coup, Angèle tressaillit. Ses traits se décomposèrent, une sueur froide baigna son front, ses doigts se joignirent convulsivement, et de sa bouche tomba une exclamation déchirante. « Mon Dieu !» L'illusion avait fui. Adieu, gracieuses images, papillons folâtres. Adieu, beau lac, frais ombrage, vive libellule, abeille bourdonnante, rossignol aux magiques vocalisations. Adieu, ciel d'azur. Pauvre Angèle, quelle tempête soudaine vous a donc jetée sur le roc de la réalité? Douteriez-vous aussi, vous? Mais non, c'est impossible. Belle, humaine, charitable, pétrie par les grâces, élevée par de pieuses gens dont vous partagez toute la foi, riche de jeunesse, d'espérance, vous êtes inaccessible au scepticisme. Et cependant, cependant, votre pied s'est posé sur un serpent caché sous l'herbe embaumée. Cependant, voilà que l'odieux reptile a roulé autour de votre corps tiède et satiné, son corps froid et visqueux. Voici qu'il dresse sa tête hideuse et cherche l'endroit le plus sensible de votre cœur pour y instiller, dans une morsure, son mortel venin. Pauvre, pauvre Angèle. Fin du chapitre 3 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en mars 2011.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.